France Musique.
Musique et moi.
Jean-Michel Ribes.
Priscille Lafitte. France Musique.
L'art nous protège de la vérité qui tue.
J'ai fini par rentrer dans mon uniforme. Et ça m'étonne même d'y être tout d'un coup entré si facilement.
Monsieur de grande remarque, mon ami.
Oh, ce cher baron ! Votre ami a craqué dans le dos.
Bonjour Jean-Michel Ribes.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Musique. Merci de vous prêter au jeu de Musique et moi ce matin. Vous êtes directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris. Et dans votre parcours, nous vous avons retrouvé à la fois tour à tour, acteur, metteur en scène de théâtre, cinéaste, scénariste et donc directeur d'un lieu qui comprend plusieurs scènes sur lesquelles vous programmez aussi bien du théâtre que du cirque, des spectacles musicaux, de l'opéra, des lectures. C'est un lieu qui bouillonne de vie. Habituellement, en temps normal, je ne sais plus comment dire. À quoi ressemble ce lieu quand il n'est pas investi par le public, comme c'est le cas en ce moment ?
C'est un théâtre fantôme, c'est un château sans belle au bois dormant, c'est un espace où, qui nous raconte ce que c'est que le vide et qui nous montre à quel point la vie n'existe qu'à partir du moment où elle est créée par l'art.
Vous répétez en ce moment le spectacle Cadoc ?
Non, ça a été annulé.
Vous l'aviez créé en février 2020, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Vous aviez prévu de le redonner en janvier ?
Oui, on a fait une tournée qui avait formidablement marché, là, quand ça marchait septembre, octobre, et puis ça s'est arrêté.
Un texte dont vous êtes le metteur en scène sur le monde du travail.
Voilà, c'est une comédie formidable de Rémy De Vos, qui est une sorte de Marx Brothers appliqué sur la tragédie du monde du travail. Comment se déchirent les égos à l'intérieur d'une entreprise, comment les fantasmes les plus fous sont développés et comment ce monde du travail entre des employés, entre des cadres de cette entreprise déborde aussi sur leur espace privé et comment l'espace privé vient se mêler aussi au désordre général.
C'est d'autant plus d'actualité avec le télétravail aujourd'hui. Nous avons ouvert cette émission avec un opéra bouffe de d'Offenbach. La vie parisienne, c'était la version enregistrée en 1976 par Maddy Mesplet, Michel Sénéchal, Régine Crespin, le chœur et l'orchestre du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson. Et j'aimerais qu'on considère cet extrait bien connu de La vie parisienne à l'aune de la citation que vous avez choisie. Elle est de Nietzsche. On pourrait aussi la traduire « Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité ». Et quand la foule fait remarquer au baron de Gondremarck que son habit a craqué dans le dos, c'est bien pour rire d'une réalité, se moquer des codes bourgeois qui se déchirent, dire que le roi est nu, en quelque sorte.
Oui, c'est ça, mais c'est aussi deux choses que je trouve plus proches presque du dadaïsme chez Offenbach en précurseur, c'est-à-dire une musique sublime, presque classique, qui pourrait s'adapter à une tragédie ou à quelque chose de très fort dans les rapports humains, et qui est basée sur mon habit à craquer dans le beau, sur une déchirure, c'est-à-dire sur rien, sur un événement de la vie ridicule, infime, insignifiant. Et ça, je trouve que c'est très extraordinaire, cette capacité de montrer que même les plus petits et rigolos incidents de la vie peuvent donner une musique formidablement inspirée. C'est le premier à faire ça, c'est le premier à avoir mis de la gaieté dans la musique. C'est assez rare. Et vous savez, il y a cette histoire aussi, on pourrait la raconter, qui disait qu'avec Halévy ou Milhac, je ne me souviens plus, il sort le soir à la sortie d'un théâtre tard, il se balade dans la rue et rencontre une dame qui a un petit chien et lui on demande « Mais qu'est-ce que c'est que ce petit chien ?» Elle dit « Il est tout petit, mais c'est un épagneul. » Et il dit « Il est épagneul, mais il grandira. » Et tout d'un coup, il se met à fredonner le célèbre air de ça. C'est-à-dire de rien, d'une espèce de capacité à rebondir sur l'insolite, sur l'inhabituel. Ils en faisaient des opérettes ou des opéras.
Alors nous allons voir ce que Offenbach disait de la vérité de son époque. Lui qui était surnommé l'oiseau moqueur du Second Empire et qui avait tendu un miroir à Napoléon III et à toute sa cour dans La Belle Hélène.
Le grand Myrmidon, combattant un contre mille. 1 contre 1000 grâce à mon plongeon.
Grâce au plongeon.
J'aurai l'esprit bien tranquille, net et mon talon. Je suis le bouillant d'Achille, le bouillant d'Achille, le bouillant d'Achille, le grand myrmidon, le myrmidon.
Voici le
bouillant
d'Achille, le bouillant d'Achille,
le grand myrmidon.
Voici le bouillant
d'Achille, le bouillant d'Achille, le grand myrmidon.
Je suis les poules de la reine, la poule de la reine, la poule de la reine, le roi Ménélas. Je crains bien qu'un jour il aigne, qu'un jour il aigne, qu'un jour il aigne, je le dis tout bas. Ne me fasse de la peine, n'anticipons pas. Je suis les poules de la reine, poules de la reine, poules de la reine, le roi Ménélas, Ménélas.
Le roi Ménélas,
le roi Ménélas. Le roi barbu qui s'avance, bu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon.
Agamemnon.
Et ce nom seul ne dispense, seul ne dispense, seul ne dispense, n'en dira plus long.
N'en dira plus long.
J'en ai dit assez, je pense, en disant mon nom. Ce roi.
Impayable Michel Sénéchal, en roi de Sparte, aux côtés de François Leroux, Laurent Naouri, Félicité Lhôte, dans le rôle d'Hélène. C'est la version enregistrée il y a maintenant 20 ans par les musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski et la mise en scène de Laurent Pelly. Un livret truculent. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous enviez dans cette écriture-là, Jean-Michel Ribes?
Oui, c'est une écriture extraordinairement libre, répéter poudre de la reine, poudre de la reine, poudre de la reine, et en faire un moment irrésistible d'opéra bouffe, c'est très très libre. Il casse les règles, il s'amuse avec les mots, il fait rentrer une musique sublime dans des phrases qui sont encore une fois tout à fait banales, ou tout, qu'il découpe de façon à ce qu'elles deviennent des espèces de morceaux de presque de poèmes dadaïstes. C'est extraordinaire. Je crois qu'on s'imagine mal la modernité d'Offenbach. Ce qui était quand même, on l'appelait le Mozart des Champs-Élysées parce qu'il avait son fameux théâtre sur les Champs-Élysées, mais c'était quand même un grand musicien qui peut-être, comme tous les gens qui s'approchent de la comédie ou du rire, sont toujours un petit peu méprisés et mis au rencard. C'est un peu un crachat sur l'art que de rire. Mais lui, à travers ça, il a fait les chefs-d'œuvre. Alors, il peut tout faire. Il peut faire des barcaroles, il peut faire des Vanscancans, il peut faire des valses, il peut faire même dans les contes d'Hoffmann des sublimes moments de duo presque romantiques. C'est un archidoué. Et ce que je trouve très touchant chez lui, c'est qu'il ne fait pas du sérieux avec ses dons. Il les met au service de la fantaisie.
Vous avez insisté pour qu'on écoute Offenbach ce matin à Jean-Michel Ribes dans cet autoportrait musical qu'est Musique et moi. C'est que vous vous reconnaissez un petit peu peut-être dans ce compositeur. Qu'est-ce que ce compositeur dit de la citation que vous avez donnée au tout début de cette émission, « L'art nous protège de la vérité qui tue ».
Eh bien oui, la vérité c'est en effet c'est les guerres à l'époque de Napoléon, la guerre en Crimée, les terribles, ce qu'on vivait, enfin les enfants qui travaillent, les mines, enfin tout ça, cette vérité, cette réalité qui est extrêmement cruelle et oppressante, et tout d'un coup, on remet par-dessus cette légèreté, cet entrain, cette gaieté, et pendant ce moment-là, il n'y a plus de vérité et la mort s'éloigne.
Vous avez écrit un opéra bouffe en 2011. Je vous propose qu'on écoute l'un des deux. En 2011, qui René l'énervé.
Oui.
Reprend le personnage de Nicolas Sarkozy.
Oui, voilà, c'est-à-dire que
président de la République à la base.
C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai beaucoup souffert pendant les 4 ans d'être représenté par Nicolas Sarkozy, qui pour moi était pas du tout, du tout ce que je m'imaginais de la France. D'ailleurs, je remercie d'une certaine façon parce que je ne me souvenais pas être français. J'étais plutôt citoyen du monde. Et grâce à lui, j'ai eu honte soudain d'être français. Donc, je me suis rappelé que j'étais français. Et plutôt, je me suis dit, quoi, faut faire quelque chose. Les gens de toutes les époques ont réagi contre des dominations ou des politiques qui n'adhéraient pas et qui les gênaient. Et je me suis dit, faut que j'écrive quelque chose. Et je voulais pas faire une chose de rancœur, donc j'ai préféré faire une chose dans la légèreté et la drôlerie. Et en effet, j'ai fait cette opéra bouffe qui s'appelle René l'énervé sur une musique de Reinhard Wagner.
Je vous propose qu'on écoute le discours de campagne de René l'énervé, mis en musique donc par Reinhard Wagner.
Sachez que j'aime l'ouvrier, tout comme le PDG. J'adore l'infirmière, le gardien du cimetière. Sachez que le marin pêcheur est au fond de mon cœur. Quant à l'agriculteur, merci pour ses choux-fleurs. Sachez que je suis frère de sang du petit commerçant et que les militaires, c'est ce que je préfère. Sachez, enfin je vous l'avoue pendant cette interview, que mon plus grand délice, c'est quand même la police et les irréguliers, les va-nu-pieds, les sans-papiers, je les ferai virer.
Par le front,
même l'ouvrier,
qui veut le pays, par le droit,
la nord infirmière,
sachez, complexe,
le marin pêcheur,
par
le fond de
ce cœur,
sachez.
Quelles sont ces pulsions primitives? Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Ma terreur redouble, horreur, serais-je double?
Et les artistes? J'insiste, hein? Aimez-vous les artistes?
C'est vrai que je leur préfère les coureurs cyclistes.
Oh.
Qui pédalent, qui avancent, se font mal, se relancent, qui dévalent en puissance la spirale et recommencent. Quelle morale, quelle constance! Il m'emballe, quelle jouissance d'arriver jusqu'au sommet en étant le tout premier. Pédalons plus pour toucher les bonus. Pédalons plus et devenons Crésus. Pédalons comme des fous pour gagner plus de sous.
Pédalons plus.
En guerre qu'un universitaire.
Ça c'est clair, évitons-nous l'ulcère.
Sans compter, mon cher Franck, que ce type un peu branque n'a pas l'air mal pour nos banques.
Ça c'est sûr, mon cher Bruno, il me plaît ce charlot. Il peut compter sur mes journaux.
Il est très sympathique, comme homme politique. Ce serait sympa qu'il dirige l'État.
Jean-Michel Ribes, on écoutait à l'instant un extrait de ce René l'énervé. Il y a des clins d'œil d'ailleurs à Offenbach, je trouve, dans cet opéra, notamment avec le chœur antique,
oui,
dans La Belle Hélène.
Ah oui.
Qu'est-ce que ça change, un message, de le faire passer par le biais du théâtre ou ici de voix chantée d'opéra bouffe?
J'ai l'impression que Vous savez, le message, il devient inaudible à partir du moment où il est sérieux et ennuyeux et moraliste. Je pense que là, justement, l'ajout de la fantaisie, du rire, du ridicule, fait passer beaucoup plus de choses et en tout cas montre combien les personnages qu'on veut critiquer et dont on critique et ce qu'ils ont dit et la politique et leur attitude, à partir du moment où ils font rire, c'est beaucoup plus fort. Vous savez, Staline disait, il avait tellement peur qu'on se moque de lui, qu'il disait un pays sans humour n'est pas un pays malheureux. Et un pays vraiment heureux n'a pas besoin d'humour. Ce qui montre bien à quel point l'humour, ou en tout cas l'ironie, la capacité de faire de la comédie avec les gens qu'on veut critiquer, c'est quand même ce qui est le plus fort. Parce que ça amène l'adhésion même de ceux qui sont qui sont des adhérents à ces tyrans.
Et qu'est-ce que la musique rend possible dans l'humour? C'est une question que j'aimerais qu'on se pose en retournant écouter Offenbach, La Péricole.
Ah, quel dîner je viens de faire, et quel vin extraordinaire! J'en ai tant bu, mais tant que je crois bien que maintenant je suis un peu grise, un peu grise. Mais je faut pas qu'on le dise. Faut pas. Si tout en même change de zigzag, si mon œil est aigrière, il ne faut s'en étonner, car je suis ma chère.
Anne-Sophie Fonauteur, dans cet extrait de La Péricole d'Offenbach, est-ce que la musique peut faire rire en elle-même, Jean-Michel Ribes?
Je ne sais pas, mais pour répondre à votre question d'avant cet extrait, il y a une chose qui est importante, c'est que un discours politique, vous ne le répétez pas toute la journée, vous l'avez entendu une fois, vous en souvenez éventuellement des idées fortes, tandis que quelque chose qui moque ou qui attaque une personnalité, une idéologie, etc. En musique, vous la fredonnez tout le temps. Et ça reste en vous, vous l'entendez à la radio, ça repasse, et la musique est une espèce de transmetteur d'idées, et ça vous reste en vous, et ça vous fredonnez votre mécontentement et votre attaque.
Est-ce que vous seriez inspiré en ce moment pour un nouvel opéra bouffe, d'ailleurs?
Ah, j'adorerais, oui, j'adorerais. Alors, en ce moment, je vous cache pas, je prépare une pièce assez copieuse qui s'appelle « J'habite ici », pièce en 12 appartements, une concierge dans l'escalier, une rue devant, qui est un peu une sorte de métaphore à travers les habitants d'un immeuble de l'époque dans laquelle on vit.
Parce que qu'est-ce qui se passe entre ces habitants?
Oh là là! Il va falloir que vous veniez voir, parce que je ne peux pas vous le dire en demain. Mais je vais essayer de mettre de la musique dedans quand même.
D'accord. Quand vous mettez en scène de l'opéra, Jean-Michel Ribes, comment est-ce que vous amenez les chanteurs à faire rire?
Non,
comment amener ce jeu-là?
Non, je crois que ce qu'il faut bien mettre en place, c'est la situation. À partir du moment où il y a une situation qui est très forte, même si les chanteurs ne sont pas des comédiens humoristiques très, très doués, la situation permet de les mettre dans une espèce d'état où c'est décalé, et à ce moment-là, c'est drôle. Et puis, il y a quand même beaucoup de chanteurs qui sont extrêmement drôles. Vous savez, quand j'ai monté Le Pont des Soupirs du même Offenbach, il ne restait pas grand-chose du livret. J'ai donc réécrit les parties manquantes. Eh bien, on a fait venir des acteurs et des chanteurs, et je me suis aperçu que beaucoup de chanteurs, pas tous, mais beaucoup de chanteurs étaient des comédiens aussi et aimaient s'emparer d'une partition du rire, je dirais.
On ne va pas du tout aller vers la partition du rire, là. C'est la Nocturne de Chopin que vous nous avez proposé d'écouter. C'est la version enregistrée par Alfred Cortot en 1947.
Thank you.
une interprétation d'Alfred Cortot du 15e nocturne de Frédéric Chopin en fa mineur, opus 55. C'est un enregistrement de 1947 à Londres.
France Musique.
Priscille Lafitte. Musique et moi.
Jean-Michel Ribes est l'invité de Musique et moi ce matin. Et nous sommes passés du rire aux larmes d'Offenbach à Chopin. Où êtes-vous, Jean-Michel Ribes, lorsque vous entendez ce nocturne de Chopin pour la première fois?
Je suis dans la même émotion que lorsque j'entends les contes d'Hoffmann ou une musique d'Offenbach. Je pense qu'il n'y a pas de différence de qualité de création, de poète, de la musique entre les deux. Simplement, après tout, on pourrait presque mettre des paroles amusantes sous un nocturne. Ça reviendrait comme ce que faisait Offenbach, une musique qui entraîne la fantaisie. Mais j'ai une admiration infinie et pour Chopin et pour Alfred Cortot. Mais je dois dire que je ne ferai pas de différence de auteur, de créateur, de comme on l'a fait très souvent. Les gens qui font rigoler, les gens comme ça, la musique de fantasy, oui, bon, très bien, mais passons aux choses sérieuses. Les choses sérieuses sont souvent très ennuyeuses, sont souvent une espèce de cholestérol de l'imaginaire. Et moi, je trouve que la fantasy et la poésie s'appliquent aussi bien à des gens comme Chopin qu'à des gens comme Offenbach. Je veux dire par là que ils sont à égalité d'artistes, ce sont des artistes géniaux.
Qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme situation sur ce nocturne, par exemple?
Oh, je sais pas, on pourrait imaginer, une chaise, peut-être même quelque chose qui ressemble à une comédie de Feydeau, à une espèce de pantalonnade et cocu et magnifique. Et oui, on pourrait aussi penser ça avec cette musique un petit peu émouvante qui traduirait les émois de la femme trompée ou du mari trompé. C'est pas, je dis n'importe quoi, je réagis à chaud, mais ça marcherait.
Est-ce que ce nocturne de Chopin vous a bercé, vous, enfant?
Oui, j'avais beaucoup de Chopin autour de moi, parce que bon, c'était à la fois une musique qui était très comment dirais-je, très envoûtante et en même temps de grande qualité. C'était dans mon petit quinquin, c'était bien, mais Chopin, c'est mieux.
Et vous avez aussi Piazzolla, je crois, dans votre
discothèque. Oui, alors ça, c'est une autre histoire. C'est mes 25% de sang argentin, puisque le père de ma mère était argentin. Et je dois dire, j'ai quelque chose qui part de l'émotion avec le tango. Le tango, c'est quelque chose, il y a à la fois quelque chose de tragique et très entraînant. Finalement, c'est tout ça, c'est cette musique qui me touche, que j'aime, celle qui vous entraîne et qui vous émeut. C'est pour ça que j'aime bien Berlioz, c'est pour ça que j'aime bien cette capacité à vous faire creuser des galeries vers le ciel, quoi.
Thank you.
répit d'Astor Piazzolla. Comment est-ce qu'on écoutait cette musique-là chez vous, enfant?
C'est pas qu'on l'écoutait, c'était une ambiance. Mais vous voyez, dans ce formidable morceau de Piazzolla, moi, ce que j'aime, c'est que ça, à la fois, ça raconte une histoire et que ça mélange, comme dans la vie, des humeurs différentes. Il y a de la gaieté, puis d'un coup, il y a du tragique, il y a du sentiment, puis de l'émotion, puis ça revient de la gaieté, puis on avance, et puis on va vers la vie, et puis on se laisse pas abattre. Ça vous entraîne. Le tango, c'est quelque chose qui vous remue et qui vous aide à vivre, qui vous emporte. Et moi, je dois dire que je suis très très sensible aux musiques qui m'emportent, qui vous emportent, soit par une grande émotion, soit par une espèce de d'ode à la joie.
C'est donc une musique que vous associez à votre grand-père. Est-ce que vous avez vite été autonome, vous, dans vos goûts musicaux?
Oui, j'ai été, disons que j'ai très vite eu la sensation de pas mettre des étiquettes, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est très bon, ça c'est culturel, ça ne l'est pas. J'étais assez foutraque et je répondais, disons que je déchapellisais, j'enlevais les étiquettes. Par exemple, je vais vous dire une chose, quand j'étais enfant, il y avait une musique qui me fascinait, c'était celle du pont de la rivière Kouai, la marche du colonel Boguet. Vous voyez que on peut pas être plus éclectique en même temps que Chopin et en même temps que le tango et aussi Offenbach.
Et nous avons beaucoup effectivement écouté Offenbach depuis le début de cette émission, mais c'est avec Verdi, je crois, que vous avez été initié à l'opéra.
Je ne me souviens pas si c'était avec Verdi que j'ai été initié à l'opéra. En tout cas, Verdi, bien que ce soit un compositeur parfois décrié parce que peut-être un peu trop sentimental ou un peu trop populaire ou un peu trop lyrique, je ne sais pas, mais il y a quand même des moments dans Verdi qui sont absolument exceptionnels et qui sont là aussi, je trouve, d'une grande liberté par rapport à l'opéra classique. C'est drôle que vous ayez choisi l'ouverture de cette Traviata parce que ça me rappelle, c'est une musique bouleversante et ça me rappelle surtout un spectacle que j'avais écrit sur un rêve que j'avais fait en spectacle sur Gérard de Nerval et j'avais mis cette musique dans ce spectacle. C'est une musique absolument qui me bouleverse.
On entendait la version de Zubin Mehta à la tête de l'Orchestre de l'Opéra d'État de Bavière. Est-ce que vous seriez, vous, volontaire pour mettre en scène une Traviata ?
Oh oui, bien sûr. Bien sûr.
Qu'est-ce que vous en feriez ?
J'en ferais quelque chose. Je suis pas proche, en tout cas, de cette immense. Comment dirais-je ? Qu'avait Verdi ce génie de s'approcher des sentiments et de les dire. Et il y a quelque chose de. Oui, il y a quelque chose chez Verdi, c'est-à-dire qu'il raconte les choses, mais il les raconte en même temps d'une manière bouleversante et en même temps en gardant l'allant de la musique.
Oui. J'aimerais qu'on écoute aussi un extrait de Rigoletto. Parce qu'il me semble que dans Rigoletto, Verdi a touché du doigt le comique, par exemple dans le personnage, bien sûr, de Rigoletto, mais aussi, par exemple, dans la ritournelle du duc de Mantoue, La Donna e mobile. C'est d'un comique grinçant, c'est une chanson, comme Verdi le qualifiait, et ça devient un élément de dramaturgie, puisque cet air revient à la fin en écho pour signifier le suicide de Gilda.
D'accento e di pensiero, sempre un amabile leggiadro viso, il pianto in riso e menzognero. La donna è mobile, qual più mal vento, muta d'accento e di pensiero. Sentisi felice a pieno, chi su quel seno non li va amore. La donna mobile, qual più mal vento, muta d'accento e di pensier.
Le ténor Joseph Calleja dans l'air le plus connu de Rigoletto, La Donna e mobile. Et quel coup de génie quand même de la part de Verdi de faire porter en creux le drame à cet air qui est l'air le plus populaire, le plus léger de cet opéra.
Vous savez, le poète Jean Tardieu, que j'aimais infiniment, disait une chose, l'enfer c'est un endroit où on fait des mots dans les programmes et on fait des préfaces. Et je trouve que il y a un moment, commenter les chefs-d'œuvre, ça ne veut rien dire, c'est les chefs-d'œuvre qui parlent d'eux-mêmes. Moi, souvent, on me dit, est-ce que tu peux faire une préface, nous expliquer ce qu'est ta pièce ? Non, parce que c'est la pièce qui le dit, c'est pas la peine d'en parler autour. La seule chose qu'on peut dire, c'est que tout d'un coup, ça vous transperce, ça vous arrive, ça vous remet dans une espèce de sensation de la vie, ça vous donne envie de vivre.
Moi, j'entends quand même des échos entre Verdi et Offenbach pour la première fois, je vous avoue. Tous deux, d'ailleurs, ont réussi à insuffler du quotidien dans l'opéra.
Oui, puisque... oui. Ils ont surtout, oui, c'est vrai, ils ont insufflé du quotidien à l'opéra, mais ils ont surtout insufflé leur génie et leur capacité de liberté, c'est-à-dire de ne pas rester sur la seule ligne mélodique, je dirais, ou tragique, ou très classique, ou selon les règles les plus affirmées de l'époque. Ils ont été transgressifs, ils ont inventé, ils se sont échappés de l'espèce de calcification des règles. Ils ont été, voilà. Et c'est ça qui fait que, tout d'un coup, c'est très touchant. Ce qu'il y a de bouleversant dans la musique, mais aussi dans le théâtre, et aussi dans l'écriture dramatique, je dirais, c'est la rupture, c'est la surprise. C'est tout d'un coup, on est dans un élan, et quelque chose, et tac, on part ailleurs, et c'est quelque chose de tout à fait neuf. Et ça, cette déstabilisation, c'est très, très, très bouleversant, et c'est très surprenant, et ça excite.
Vous avez demandé aussi, est-ce qu'on écoute une chanson de Barbara ? Vous m'avez laissé le choix dans oui. L'immensité de ce registre-là. Et j'aimerais qu'on écoute Barbara, non pas dans un registre sombre ou mélancolique, mais dans une chanson qui prête à rire. Il y aura du monde.
Du monde à l'enterrement, si l'on en croit les apparences, s'ils viennent tous à l'enterrement, ce que je trouve avec outrance, couché là sur mon paillasson, lorsque je n'y suis pour personne, ou pendu avec des raisons au fil de mon téléphone, ou pendu avec des raisons au fil de mon téléphone. Il y aura du monde, assurément, au nom du père, au nom du fils, s'ils viennent tous à l'enterrement, ce que j'aimais de père en fils, ça me fera un gentil régiment, me rendant les derniers offices, pour mes bons et loyaux services, le jour de mon enterrement, pour mes bons et loyaux services, le jour de mon enterrement. Et celles qui, je l'ai bien connues, les pas belles, les cancanières, et celles qui ont de la vertu, mais de bien méchantes manières, viendront dans leur robe de bain, me dire un petit compliment pour ma dernière générale, le jour de mon enterrement, pour ma dernière générale, le jour de mon enterrement. Les mondains, les encanaillés, les mesdames, les sous-préfètes, trois petits fours et deux avés, à la fête comme à la fête, se diront pour passer le temps à voix basse des bagatelles, tout en se repassant l'appel, le jour de mon enterrement, tout en se repassant l'appel, le jour de mon enterrement. Ah, je voudrais rien qu'un instant les voir sur la dalle froide, agenouillés et marmonnant, en avant pour la mascarade, ceux qui viennent et font semblant, effeuillant d'une main distraite, du bout du cœur, du bout des gants, un chrysanthème, un je regrette, un peu beaucoup passionnément, le jour de la dernière fête, le jour de la dernière fête, au jour de mon dernier matin, au jour où je me ferai belle, au jour où salue les copains, je pars pour là-bas, on m'appelle, j'irai cultiver mon jardin, j'irai voir fleurir mes roses, d'un autre côté du chemin, là, l'autre côté du chemin, bah, ça fera du monde à l'enterrement, et fini la douce habitude, celle-là de passer mon temps à vivre dans la solitude. Je sens qu'au dernier rendez-vous, non, je ne serai pas seulette, qu'il vienne et ce sera vivant, le jour de mon enterrement, qu'il vienne et ce sera vivant, le jour de mon enterrement. Je veux que ce soit au printemps, à l'heure de la belle lumière, je veux m'en souvenir longtemps, de l'heure de mon heure dernière, et lorsque je serai couché au-dedans de la bonne terre, pour vous tous que j'ai tant aimé durant cette vie tout entière. Si vous entendez, ma dernière petite chanson surtout, n'en ayez pas de peine, c'est pour dire adieu, je vous aime, et je m'en vais le cœur content. C'est pour dire adieu, je vous aime, le jour de mon enterrement, le jour de mon enterrement.
Jean-Michel Ribes, quelle Barbara portez-vous dans votre cœur ? Celle qui se moque gentiment de son public ici ? Le public qui assisterait à ses obsèques ? Et qui est un joli pied de nez à ma plus belle histoire d'amour, c'est vous d'ailleurs. La part d'amour avec le public.
C'est la même chose, hein. Elle ne se moque pas de son public, elle l'aime d'une chanson sur l'autre. C'est vrai que ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Moi, j'étais là quand elle est revenue et qu'elle a chanté. On était en larmes, toute la salle était en larmes. Et en même temps, l'enterrement, cette manière de faire une espèce de rigolade sur l'enterrement, de satire sur l'enterrement, c'est très drôle, très fin, très courageux et en même temps aussi très émouvant. C'est-à-dire que dans les deux chansons, il y a la joie de vivre, la joie d'être, la joie de santé, mais en même temps sans oublier qu'on va mourir.
Puisque vous l'avez vu, vous, sur scène, quel enseignement vous avez tiré de sa présence scénique ?
Je n'ai pas tiré d'enseignement, parce que je ne pense pas que c'était quelqu'un qui donnait des leçons, mais c'est une évidence de le dire. Il y a un moment, il y a des gens qui dégagent des ondes, une présence, la grâce, et ça, ça ne s'apprend pas.
Vous êtes aussi féru d'autres voix de chansons, comme celle de Serge Reggiani.
Oui.
Ouais. Et puis d'un hymne à la vie et au désir, signé Ray Charles.
Come and love me, baby, all night long, yeah. Baby, it's all right. Oh, it's all right. Hey, 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 yeah. We'll see me in misery. Come over, baby, see if I see it all night long. Baby, it's all right. Oh, it's all right now. Hey, 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 yeah, yeah. She got a red diamond ring. She knows how to shake that thing down, down. Yeah, she's all right. Oh, it's all right. Hey, 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 yeah. Can you play it one time for me, son? That's what I'm talking about now. Roll it, baby. Song. She can burn Lana all night long. Oh, it's all right. Oh, it's all right. Hey, 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 girl. I'm gonna tell you, mama, tell you, pa. I'm gonna say you right now. I'm just so tired now. Mama, she don't do right. Yeah, don't do right.
Just one more time.
Hey, one more.
Just one more time.
Hey, one more.
Yeah, let's go.
What did I say, the Ray Charles?
France Musique. Priscille Lafitte. Musique et moi.
Jean-Michel Ribes, metteur en scène, directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris, esquisse son autoportrait musical sur France Musique ce matin. Est-ce que vous connaissez cette blague à propos de Ray Charles? C'est un journaliste qui lui aurait demandé « Ça ne vous rend pas malheureux d'être né aveugle ?» À quoi il aurait répondu « Cela aurait pu être pire, j'aurais pu être noir. »
Oui, c'est vrai que c'est. Mais What Did I Say, ça, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est en dehors du fait que c'est toute ma jeunesse, que j'avais 15 ans, etc. J'allais à l'Olympia voir les concerts organisés par Norman Granz. Moi, je suis passé totalement à côté des yéyés. J'étais plutôt vers le jazz, vers Ray Charles, vers les grands compositeurs noirs américains. Et là encore, je trouve que ce qu'il y a de presque de commun à Verdi, à Offenbach, etc., avec Ray Charles, c'est que il y a une espèce d'allant, d'une musique qui entraîne et en même temps une musique très émouvante.
Vous ne m'avez pas dit, est-ce que vous jouez de l'instrument, vous?
Oui, j'ai joué pendant longtemps de la batterie.
De la batterie de quelle sorte? Du jazz, justement?
Non, pas de la batterie de cuisine, hein, de la batterie de...
Bien sûr, ça, j'ai bien compris. Oui, mais ça peut être de la batterie pour un orchestre symphonique, ça peut être de la batterie dans plein de...
Non, ce n'était pas timbalier, si vous voulez que je vous dise. C'était... J'ai pas non plus une espèce de percussionniste. Je jouais vraiment de la batterie classique de jazz avec une pièce claire, des tambours, des toms et des cymbales.
Ça veut dire que vous avez joué dans un groupe?
Quand j'étais en pension, on avait formé un petit groupe et il y avait un type, un Américain qui était là, un élève américain qui avait eu la bonne idée de venir faire ses idées en France et qui était un trompettiste vraiment de grande qualité, de grande technique. Et on avait fondé un petit groupe et on jouait ça, on jouait What Did I Say, on jouait Take Five, on jouait les trucs de Dave Brubeck. Et oui, j'ai joué et puis après j'ai arrêté. Mais je dois vous dire que le tempo... Le rythme, c'est quelque chose qui continue à m'habiter beaucoup quand je mets en scène.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je crois que les mots disent beaucoup de choses et le rythme convainc. C'est-à-dire la manière de les dire, vous savez, le théâtre, c'est une partition. Hein. Vous savez, Feydeau écrivait des notes de musique sous ses répliques parce que « ah, 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 ah ». Oh, oh, c'est complètement différent. Et je crois qu'il y a dans toute œuvre dramatique et dans toute œuvre dialoguée une musique interne qui doit absolument être retrouvée et un rythme qui doit faire passer la parole de l'auteur.
Il y a des rythmiques impaires aussi dans le théâtre, comme chez Dave Brubeck.
Oui, comme Take Five, vous voulez dire oui. Non, il y a bien sûr, il y a des.
Il y a des temps forts et des contretemps.
Il y a des contretemps, il y a des temps forts, il y a des croche-pieds, il y a des temps tout d'un coup suspendu, il y a des ruptures aussi, il y a des ruptures de rythme, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, il y a des ruptures de rythme qui font que tout d'un coup on est repris, on est réinjecté dans la pièce ou dans le spectacle. Thank you.
Dave Brubeck au piano, Paul Desmond au saxophone alto, Eugene Wright à la contrebasse, Joe Merello à la batterie. C'est un enregistrement qui date de 1967 à la salle Pleyel, Three to Get Ready. Et vous me parliez un tout petit peu plus tôt de votre pratique à vous, de la batterie. Qu'est-ce que la pratique de la batterie vous a appris sur le théâtre, dans un groupe, en plus du rythme ?
Non, c'est essentiellement le rythme, c'est essentiellement la capacité de montrer qu'une réplique, si elle est dite sur un mauvais rythme, ne passe pas et surtout n'atteint pas l'effet comique en général. C'est-à-dire que vraiment, ça c'est capital, cette histoire de rythme, de rupture. Et d'ailleurs,
il y a du swing au théâtre ?
Oui, oui, il y a du swing, il y a oui, il y a des coups de cymbales, il y a des roulements de tambour, il y a tout ça. Mais je dois dire que il y a des acteurs qui ont ça dans la peau, et comme des gens qui chantent magnifiquement le blues, il y a des acteurs qui ont ça dans la peau, qui le sentent tout de suite, et d'autres non. C'est pour ça que quand on a écrit une pièce, il faut se précipiter sur des acteurs qui ont le talent de la jouer, parce qu'ils rajoutent du talent au vôtre.
Et là, d'autant plus dans le jazz, où la rythmique avance à un tempo extrêmement régulier, contrairement au classique, où on peut se permettre quelques aléas, quelques rubatos, quelques jeux avec le rythme. En jazz, il faut que le tempo reste stable. Est-ce que ça a une importance pour vous au théâtre ?
Non, enfin stable, si stable veut dire identique, c'est pas ça. Mais il faut qu'il reste dans la même... Je dirais dans la même humeur, mais il reste stable le tempo dans le jazz, mais en même temps il fait des ruptures, il recule, il avance, il fait des surprises, il y a des gouffres de silence. Non, ça raconte bien l'histoire. Le tempo, ça la muscle, ça lui donne la direction et auquel s'accroche tout le reste des instruments. Moi, j'aime pas trop le jazz sans percussion.
Vous avez travaillé avec différents compositeurs, et notamment avec le Canadien Louis Ferret,
oui,
pour Jackie Paradis. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble ? Qu'est-ce que vous demandez comme ça à un compositeur, notamment par exemple sur le rythme ?
Alors là, c'est une histoire très intéressante, parce que j'avais Jean Mercure, qui dirigeait le théâtre de la ville, m'avait commandé une pièce. Je savais ce que j'allais raconter. Je lui avais fait un petit synopsis de la pièce. Il m'avait dit, vas-y. Et une fois que ça avait été dit, j'arrivais pas à l'écrire. J'arrivais plus à l'écrire. Et pendant un an, je arrivais pas. J'étais bloqué. Ça ne sortait pas. Et tout d'un coup, un jour, j'ai dîné chez Louis Ferret, Carole Laure, qui était sa compagne, qui est toujours sa compagne. Et je lui ai raconté l'histoire. Elle m'a dit, oh, c'est très amusant. J'avais une petite histoire en tête qui était intéressante, qui était l'histoire d'un petit révolutionnaire de province qui voulait faire la révolution à Paris, qui voulait gueuler, qui voulait jeter, qui finalement n'avait trouvé qu'un seul métier, c'était aboyeur dans une boîte de nuit. Donc il y avait le mélange du monde de la nuit, du monde des travestis, du monde des prostituées, du monde ça, et en même temps une espèce de énergie révolutionnaire. Et donc je lui ai raconté cette histoire, et tout d'un coup ça l'a amusé beaucoup, et tout d'un coup il est allé à son piano, il m'a fait de la musique. Il m'a dit, voilà, tiens, ça me fait penser à ça, et là je sais pas pourquoi ça a ouvert les portes et j'ai écrit la pièce. C'est-à-dire que ça a été vraiment un déblocage formidable. On a travaillé ensemble, c'était Jean-Jacques Vanier qui dirigeait l'orchestre sur scène, et ça a été un souvenir incroyable d'échanges, de sensations et d'ouverture de sens. Voilà. Et puis, par moment, je travaille beaucoup avec des compositeurs, et par moment, surtout pas, parce que la musique est tellement forte qu'elle m'empêche d'écrire.
Je vous propose qu'on écoute le travail de Louis Ferret dans l'album qu'il a fait à partir des leaders de Brahms. Il a traduit ces leaders en anglais et il a chanté dessus de façon folk.
It's just a feeling, it's a song that keeps running through my mind. a memory, a fragrance I thought I'd left behind. I watch the past unwind. It's just a feeling, it's a song that I'm always trying to write. Elusive as the mist, as the vapors of the night. That fade with morning light. I know there's something of that feeling contained within this verse. A memory, a fragrance, a blessing, curse. I sing these songs of yearning, and night after night I fear my heart must burst.
Un extrait du travail donc de Louis Furet sur les leaders de Brahms. C'est ici un détournement de Wie Melodien zieht es mir, opus 105 numéro 1, donc de Johannes Brahms. C'est drôle que vous disiez que vous avez parfois besoin de musique pour vous mettre à écrire et que parfois la musique emporte tout et n'est plus nécessaire parce qu'elle prend trop de place, c'est ça ?
Oui. Alors, parfois, tout d'un coup, c'est vrai que la musique, dans certaines parties de pièces où elle doit être comme ça, il y a une danse, où il y a une chanson, etc., vient la compléter, vient compléter la pièce, vient apporter quelque chose qui était prévu même dans l'écriture. Et puis, d'autres fois, elle souligne par moment une émotion, quelque chose que les mots peut-être ne disent pas assez, mais souvent, la musique est si forte qu'il n'y a plus rien à dire et on ne peut pas écrire. Enfin, moi, j'ai plus besoin d'écrire. D'ailleurs, moi, j'aurais adoré être compositeur. Je ne l'ai pas été, mais ça aurait été mon rêve.
Pourquoi vous ne l'avez pas été ?
Parce que, sans doute, j'exprimais mal ce désir quand j'étais petit, qu'on ne m'a pas donné un enseignement de piano, de violon ou de je ne sais quel instrument, et que je suis passé à côté de ça, que j'ai découvert plus tard, mais il était trop tard.
Vous avez lire la musique ? C'est-à-dire que quand vous jouez, vous avez joué de la batterie
Non.
C'était d'oreille ?
Non, oui, c'était d'oreille, complètement.
D'accord. Vous avez demandé à ce qu'on écoute Eric Satie. Et j'ai envie qu'on écoute ensemble les musiques d'ameublement. Parce que c'est précisément une musique qu'il avait écrite pour meubler les temps de restaurant à son époque.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a remis au sommet de l'art, la musique d'ascenseur, presque. C'est-à-dire que, et ça, c'est un acte d'analyse que je trouve très salutaire, très sain. Ça casse les données du sérieux des grands musicologues. Je trouve ça absolument indispensable et extrêmement réjouissant.
Thank you.
Eric Satie a intitulé cette musique d'ameublement « Si, tenture de cabinet préfectoral
oui. »
dans l'ensemble oui. Ars Nosa, dirigé oui. par Marius Constant. Ce sont des boucles avant l'heure, en fait,
oui. qu'il a écrit. Mais vous savez, on pourrait aussi renverser la chose, parce que maintenant, quand on utilise du Mozart pour vendre de la lessive, c'est étonnant de se saisir d'une musique chef-d'œuvre pour en faire de la musique d'ameublement. C'est-à-dire, il y a cette espèce d'aller-retour entre l'utilisation de la musique comme illustration pour des produits ou des, je sais pas quoi, très vulgaires, très comme ça. Et puis, il y a cette espèce de drôlerie que montre Satie, qui se moque justement de cette musique en l'appliquant à, justement, à une tenture de bureau préfectoral ou je ne sais quoi. C'est là où il est, c'est là où il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esprit.
Oui, et puis il a quand même eu le génie d'inventer avant l'heure la boucle, c'est-à-dire une musique à laquelle on prête pas trop attention oui. et qui tourne en rond.
Oui, oui. Mais une musique qui en même temps est lancinante et vous enferme dans une espèce de partition, de rythme, etc. qui vous enferme et vous n'avez finalement vous oubliez d'en sortir.
Ce mouvement-là est nommé, intitulé « Tapisserie en fer forgé » d'Éric Satie. Je vous voyais déjà partir dans une rêverie,
oui.
Jean-Michel Rive.
Ben forcément, la musique d'ameublement meuble votre esprit.
Il le meuble avec quoi, à l'instant ?
Ben, il meuble avec la capacité de penser à autre chose. C'est une espèce de piste de lancement pour aller ailleurs.
Satie, le facétieux, qui était incompris d'ailleurs de son temps. Longtemps, il n'a pas été pris au sérieux. Ses contemporains avaient la peine à comprendre cet homme aux apparences si sérieuses.
Justement, il a lutté contre le sérieux qui fiche tout, qui est une espèce de mise en boîte définitive des règles et de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et justement, ils n'ont pas pris au sérieux parce qu'ils ne rentraient pas dans le sérieux et ça, c'était bien. Mais après, on a vu aussi que c'était un vrai compositeur.
Ouais. version facétieuse, un détournement de la première gymnopédie d'Éric Satie par le trio de Jacques Loussier. Un grand merci à vous, Jean-Michel Ribes, pour cette partition personnelle que nous avons déroulée ensemble, du burlesque d'Offenbach au minimalisme chez Satie.
Oui, mais j'ai l'impression, j'ai essayé de montrer ce que Baudelaire appelait des correspondances. Il se trouve que tous ces compositeurs correspondent quelque part entre eux avec ce même souci d'invention et un petit peu d'une espèce de fantaisie qui casse les règles de la convention.
Je crois que vous ouvrirez les portes de votre théâtre, si tout va bien, celui du rond-point, à un spectacle sur Clara Askill au mois de mars, si tout va bien.
Oui, mais tout ne va pas bien en ce moment. Mais en effet, j'aimerais... C'est un spectacle que jouera Laetitia Casta. C'est un moment très fort. Elle a été une espèce de personnage un peu oublié, une espèce de, j'exagère, mais de Anne Frank de la musique, et qui, il y avait des gens comme Picasso, des gens comme ça qui pensaient que c'était un génie absolu, Clara Askill.
Ouais, donc la pianiste Clara Askill, mise en scène, donc au Théâtre du Rond-Point, si tout va bien. Merci à Xavier Atto, à la technique, Marie Groux, à la réalisation, attachée de production, Marie Ferdinand. Passez un très beau dimanche sur France Musique, et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.